Les objectifs des libéraux radicaux Montezençon, 3 sièges plus la présidence de la commune. Une intention martelée en début d'assemblée générale par le président sortant du PLR valaisan, Florian Piazenta. Une position qui efface toute ambiguïté mais qui n'ajoute pas de stress, selon le chef de campagne du parti Montezan et président du conseil général Antoine Belvalde.
Ça rajoute pas de pression, ça montre l'enjeu et l'importance. Cet enjeu, cette importance, on en avait conscience. On se donne les moyens aussi, à nouveau, de proposer à la population des alternatives, des candidats de qualité. On sait maintenant que le président actuel ne se représente pas. Donc, d'autant plus, il faut qu'on élise quelqu'un à la tête de cette ville pour les 12 prochaines années ou pour le futur. Et on va construire, à l'image des présidents précédents, tout ce qui va se faire. On doit finir certains projets, c'est clair. Mais c'est ce que va apporter la liste dans son ensemble.
Antoine Belvalde au micro de Guillaume Abbey. Les Valaisannes et Valaisans éliront leurs autorités les 13 octobre et 10 novembre 2024. La situation est délicate en Valais en raison des nuits froides qui se poursuivent cette semaine et du risque de gel qui en découle. Du Léman jusqu'à Sierre, tous les types de cultures, que ce soit les fruits, légumes ou encore les vignes, tant en plaine que sur les coteaux, sont sous surveillance.
Et pour la 12e année consécutive, les eaux du Léman n'ont pas été complètement brassées.
Les données de la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, indiquent une profondeur de brassage de 100 mètres, un chiffre inférieur à la moyenne de ces 10 dernières années. En cause, les températures plutôt élevées enregistrées cet hiver, lesquelles ont maintenu la concentration en oxygène des couches profondes à un niveau préoccupant pour la santé de l'écosystème lacustre. La Suisse a de nouveau un astronaute à part entière. Le Bernois Marco Ziber a été officiellement admis dans le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne aujourd'hui, au terme de sa formation de base à Cologne en Allemagne. À noter que Marco Ziber est le 2e astronaute suisse après le vaudois Claude Nicollier. Le chanteur Kenji Girac a été très grièvement blessé par balle aujourd'hui dans les Landes et hospitalisé ensuite à Bordeaux. Son pronostic vital n'est plus engagé après l'avoir été un temps, a-t-on appris de sources proches du dossier. À noter encore qu'une enquête a été ouverte. Et on passe au sport. Pas de record, mais une performance de choix pour le trio composé de Caroline Ulrich, Thibaut Dessène et Alessandra Schmidt. Les trois femmes se sont imposées hier dans la catégorie féminine sur la petite patrouille des glaciers après un effort de 3h41 minutes et 52 secondes. Pour les athlètes de la Tour de Paix et de Lézin, il s'agit de la 2e victoire consécutive après 2022. Il aura toutefois manqué 9 minutes pour battre le record de temps sur le parcours. Pas de quoi décevoir toutefois les vainqueurs du jour qui voient déjà en grand pour 2026. Caroline Ulrich.
Je pense qu'on va quand même laisser de côté ce record et puis on va partir sur la grande dans 2 ans. Et puis on verra pour les objectifs, mais pour le moment déjà la faire, c'est déjà un gros truc.
C'est un rêve cette grande patrouille?
Oui, je pense que c'est un rêve, oui. Ouais, quand on voit ici, quand on arrive à Verbier, même avec une seule course, le monde qu'il y a, ça fait immense plaisir, ça met des étoiles dans les yeux.
Et chez les hommes, c'est un trio européen qui a remporté cette petite PDG 2024, composé d'un Andorran, d'un Norvégien et d'un Allemand. Oriol Holm-Rupert, Eric Kervatn et Finn Hösch ont bouclé le parcours de 26 km en 3h, 14 minutes et 23 secondes, non sans souffrir. Les précisions d'Oriol Holm-Rupert.
Aujourd'hui, vous avez vraiment très 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 froid. C'était éprouvant au sommet. Ah, fallait pas y rester, en plus on était en combi, donc fallait faire au plus vite. Aussi techniquement, c'était compliqué parce qu'avec le froid, les peaux elles collaient plus. Les particules de neige entraient beaucoup plus facilement dans les peaux, donc fallait être vraiment en équipe team, fallait vraiment être en esprit d'équipe. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on est super contents, on n'a rien lâché. Dès qu'on pouvait pousser, on poussait. On a tout fait pour.
Et c'est un trio autrichien qui a pris la 2e place juste devant le team Gruyère. Ce sujet a été préparé par Thierry Nicolet.
La première édition de la course Up and Down a eu lieu samedi à Aigle.
Des populaires aux élites, en passant par les écoliers, ils étaient 500 à fouler les pentes boueuses de la forêt du Failly. François Leboeuf, membre du comité d'organisation et coureur, évoque l'importance et le plaisir de créer une course ouverte à tous et notamment aux enfants.
Ils ont déjà développé le plaisir des jeunes, puis moi je le vois quand on amène les classes là. On a eu beaucoup d'élèves qui sont venus parce qu'une fois qu'ils l'ont fait une fois, tout le monde se prend au jeu, même ceux qui ne sont pas coureurs. Au pire, tu marches la montée, puis tu as tellement de plaisir en descendre que ça donne envie de courir. Même hier, juste en balisant le parcours, t'as juste les étoiles dans les yeux juste à voir le chemin, puis à, tu vois, c'est... Donc c'est, il faut juste que les gens le vivent, puis après ça va se développer tout seul.
François Leboeuf au micro de Basile Daillère. À noter que de l'autre côté du globe, au Japon, les Chablaisiennes Maud Matisse et Thérèse Leboeuf, l'épouse de François, ont brillé ce week-end en montant toutes les deux sur le podium des Golden Trail Series.
L'actu en continu sur radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
En large.
Blanc. Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Hélène Jacobé, bonjour.
Bonjour.
On s'est donné rendez-vous à Martigny. C'est un lieu de passage pour vous. Vous êtes romancière. Vous publiez un premier roman chez Favre et Héloïse d'Ormesson. Donc double édition, une en Suisse, une en France. Le Lotus Jaune, on va en parler. C'est un roman historique, ça se passe en Chine. Rien à voir avec Martigny. Mais pourquoi ce... Bon, vous habitez Fribourg, vous. Hein. On va dire que Martigny est un lieu de passage.
Oui, et puis je passe souvent par Martigny. Enfin, j'y passais déjà enfant pour aller à Chamonix, où on allait souvent en vacances. Et c'est un endroit où je retrouve souvent ma maman, où on va voir les expositions de la Fondation de Janada, se promener dans le parc et parfois manger au Kwan Bun, qui est le très bon restaurant chinois du coin. Voilà.
Donc, alors, Martigny, on aime bien. C'est là que vous avez puisé votre désir de Chine ou...
Bah, je pense que ça, oui, ça, quelque part, ça a nourri un goût, peut-être. Oui, probablement. Ouais, ça a commencé par ça, la Chine, pour
bon,
moi.
On va dire Martigny, hein, comme cette vallée du Rhône, est une étape de l'Orient Express, hein, donc peut nous emmener vers l'Orient. Alors c'est l'Orient, Proche-Orient, mais on peut imaginer qu'après le train continue vers l'Extrême-Orient où vous nous emmenez, Hélène Jacobé, avec ce Lotus Jaune. C'est un roman historique autour d'une femme réelle qui a existé, vous allez nous en parler, et puis qui se déroule autour de l'année 1900 dans ce qu'on appelle la révolte des boxers, des boxeurs en français, dont on va assez largement parler aussi. Moi, je me suis imaginé en lisant votre livre, voilà une cynophile qui va rencontrer un cynophile d'ailleurs, mais pas avec la même orthographe, parce que moi j'aime beaucoup mon chien, mais, et qui parle probablement chinois et qui est fille de diplomate, qui a vécu 10 ans en Chine. Non, pas du tout, j'ai entendu ça dans une interview.
Non, et justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte qu'il y a vraiment, alors là, pour le coup, une imposture, parce qu'on me dit, ah, mais alors vous êtes sinologue, vous êtes prof de chinois, alors vraiment pas du tout. Donc moi, je suis prof de français à Fribourg, dans un collège, à l'école de com, et en fait, pour moi, la Chine, c'était un petit peu... Alors, j'aime bien la Chine. Bah, je vous dis, la cuisine chinoise, mes parents, ils aimaient bien. Ils nous emmenaient volontiers. Il y avait tout ce cinéma...
Il m'arrive de faire un karaoké, bon.
Oui, ah oui, très volontiers aussi. Et puis, il y avait tout ce cinéma des années 90 où, que ma maman nous emmenait voir. Il y avait le Palanquin des larmes, le Dernier Empereur. Oui, alors, je ne l'ai pas vu petite, celui-là, ouais. Parce que... bon. Mais il y avait tout ce cinéma qui était inspirant. Et donc, moi, la Chine, je connaissais comme ça, vraiment, disons, comme une étrangère, quoi. Enfin, ouais. Vraiment, pour son côté exotique, le cirque aussi, hein, dont je parle, avec ces lions dansants, ces gymnastes qu'on voit, que j'ai vu au cirque Kini, certainement. Moi, la Chine, je connaissais comme ça.
Mais quel pas, hein, entre, voilà, moi aussi, j'ai vu le Dernier Empereur, un certain cinema. C'est un pas gigantesque que vous avez fait.
C'était un énorme travail, franchement, ouais. Pour être honnête. J'ai passé du temps en bibliothèque, puis surtout en me disant, bon, au début, je me suis dit, je vais pas me laisser effrayer. J'ai fait une première version, romanesque, en me disant, bah, de toute façon, qui va lire mon bouquin? Première version romanesque. Là-dessus, Covid, les bibliothèques ferment, bébé. Donc, on a mis tout ça de côté pendant un petit moment. Et puis après, je me suis dit, non, mais cette version romanesque, quand même, ça ne me convenait pas. Parce que plus je me mettais dans l'histoire, plus le personnage m'intéressait. Mais un personnage historique, on ne peut pas juste le fantasmer, en fait. Il fait partie d'une réalité sociale, politique, géographique. Et donc, je me suis dit, non, mais là, je viens en bibliothèque et je cherche. Et du coup, en fait, c'était hyper intéressant. Mais je pense que la Chine, c'est pas forcément le plus important dans cette histoire. Et l'aspect civilisation chinoise, bah, voilà, enfin oui, c'est intéressant, mais finalement, j'ai fait le job de pré-mâcher cette histoire pour qu'on puisse la comprendre. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était
le destin voilà. D'une femme. Bon, alors ça, oui, évidemment, moi aussi, ça m'a intéressé, le destin de cette femme. Je suis votre lecteur. Moi, je suis un grand mangeur de romans historiques, et c'est clair que si tout ce qui va autour est insuffisant, moi, j'ai très peu de connaissances sur la Chine, mais ça marche pas, en effet.
Donc,
le deuxième job que vous avez fait, il est essentiel.
Ouais. Oui, puis je pense que pour comprendre ce qu'elle a, parce que moi ce qui m'intéressait vraiment, bon il y a eu la photo sur Wikipédia, je me disais, mais il y avait quelque chose qui ne matchait pas. C'était le fait qu'elle soit guérisseuse. Donc les guérisseurs, il y en a, enfin à Fribourg il y en a beaucoup, en Valais il y en a beaucoup aussi. Les guérisseurs c'est des gens très modestes, très discrets. Et là tout à coup, elle pose avec, donc sur une photo, les Chinois se faisaient pas du tout prendre en photo, en meneuse de guerre.
On est en 1900. Hein,
en 1900, ouais, mais voilà, oui, à l'époque, ouais, elle se faisait pas prendre en photo, les femmes étaient vraiment confinées. Et là, il y avait quelque chose qui pour moi ne matchait pas et que je voulais comprendre. Et finalement, le roman, c'est une proposition de quelque chose qui a pu être possible.
Ouais, on va raconter quand même un peu cette histoire de photo, hein, parce qu'on a affaire donc à un personnage historique qu'on connaît comme une des personnalités, on va dire la passionnaria, hein. C'est pas cohérent avec la Chine probablement, mais de cette révolte des boxers, qui est prise en photo en effet avec une douzaine d'autres femmes, et qui est un vrai personnage historique. Elle s'appelle Lin Ayer.
Voilà.
Vous ni moi ne savons comment
tout
ça se prononce exactement.
Un mystère, mais en fait, un mystère de plus.
Et donc historiquement, si on laisse de côté ce que vous avez fait d'un point de vue romanesque, qu'est-ce qu'on sait d'elle?
Alors, qu'elle a vécu, qu'elle a posé et qu'elle a fait défiler, en tout cas que ses milices ont défilé à Pékin devant l'impératrice au moment de cette révolte. Voilà, ça c'est historique. Et puis c'est à peu près tout. Le reste c'est des chansons, des poèmes, et notamment cette réputation d'être capable de soigner les gens en claquant des mains. Voilà, donc une réputation de miracle. Le reste, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé beaucoup plus.
Bon, vous nous conviez à un choc de civilisation, hein, une civilisation chinoise millénaire avec ses traditions un peu obsolètes si on imagine ce qu'était l'enthousiasme conquérant de l'Europe au 19e et au 20e siècle, mais riche, hein, civilisation extrêmement riche, précoce par rapport à la civilisation européenne d'ailleurs, hein. J'ai regardé un peu l'histoire de la Chine, du coup la dynastie des Song, hein, l'an 1000, déjà l'imprimerie, déjà la poudre, déjà toutes sortes d'inventions, alors que le Moyen-Âge profond était encore notre lot en Europe. Et c'est le choc entre ces deux mondes. Et vous nous racontez finalement une révolte populaire due à l'arrivée des Européens, l'arrivée des chrétiens, déjà depuis quelques décennies, hein, dans cette Chine.
Ils
n'avaient
pas le droit de s'installer. En fait, c'était... il y avait quelques jésuites à la cour de Pékin, mais qui étaient un peu des intellectuels, j'ai l'impression qu'on montrait comme des bêtes exotiques finalement, c'était un petit peu même précieux finalement d'avoir un jésuite, mais ils n'avaient pas le droit de s'installer. Et c'est après les guerres de l'opium que les Chinois ont perdu, donc où les Britanniques ont importé illégalement de l'opium en Chine.
On va raconter cette histoire, voilà. c'est
quand même assez dingue. Et ouais, après avoir perdu ces guerres de l'opium, les missionnaires ont le droit d'entrer dans les terres chinoises et là du coup de prêcher. Et ils ont complètement bouleversé la société, enfin l'organisation sociale
Le feng shui, on le voit souvent passer dans votre livre. C'est pas voilà, nous on voit ça comme un magasin avec des petits jets d'eau et des petits faux jardins. Chez eux, c'est une réalité. Il faut que le monde soit harmonieux et l'arrivée
alors,
des
ça
étrangers.
L'était, et visiblement, ce qui alors moi ça m'a étonné et ça m'a épaté quand j'ai fait mes recherches, c'est que depuis la guerre des boxers, où toutes les superstitions justement ont été malmenées par la guerre, les Chinois n'aiment pas trop parler du feng shui par exemple, ou des rituels autour du kung fu, parce qu'il y avait beaucoup de rituels magiques. Et comme ils ont été malmenés, ils ont peur de passer pour des gens superstitieux, donc on n'aime pas trop parler de ça. Mais à l'époque, effectivement, un village était conçu selon les préceptes du feng shui, et notamment autour des tombes des ancêtres. Et c'était ça qui a vraiment exaspéré les Chinois, c'est que typiquement les Allemands voulaient construire des chemins de fer pour traverser le Shandong. Et en passant sur les tombes des ancêtres. Et pour les Chinois, c'est pas possible, ça.
Bon, il y a une arrogance européenne, hein, qu'on a connue au temps du colonialisme vainqueur et triomphant dans toutes les parties du monde. Mais ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'ils arrivent dans une civilisation très installée. Ils n'apportent pas à la civilisation, ils apportent juste un autre modèle et ce modèle ne passe pas. On va revenir un peu sur ces guerres de l'opium, parce que ça, je pense que peu de gens le connaissent chez nous. Et c'est essentiel, c'est extraordinaire quand même ce qui s'est passé et à quel point l'Europe, en l'occurrence là c'était en tête de pont la Grande-Bretagne parce que c'était la première puissance mondiale à l'époque, a utilisé toutes les méthodes de crapule pour s'imposer.
Tout à fait, alors là vraiment c'est crapuleux, c'est le mot, mais en fait ce qui se passait c'est que à cette époque au 19e siècle, bah, tous ces grands empires voulaient commercer, voulaient installer leur étendue impérialiste, et en fait ils voulaient pas forcément envahir mais ils voulaient commercer, notamment ils voulaient du thé, la soie, etc. Et pour les Chinois, pas de souci tant qu'on se prosterne devant l'empereur, parce que l'empereur est le maître, et ça les Britanniques pas le faire, donc ils n'avaient pas le droit d'entrer. Et donc ils cherchaient un levier pour pouvoir commercer, parce que les Chinois, eux, ne voulaient pas du tout acheter ce que proposaient les
Britanniques. Les Anglais, les produits manufacturés.
Et puis en plus, ils voulaient qu'ils le payent en argent, et les Britanniques ne voulaient pas, ils voulaient troquer. Donc il y avait vraiment un problème qui était commercial. Et donc ils cherchaient un levier, et ça a été l'opium. Donc l'opium qui était fabriqué en Inde, donc c'était pas très loin pour le faire venir en bateau, le risque était assez faible. Donc ils se sont dit, bah, on essaye. Et comme les Chinois souffraient beaucoup, de la faim, d'un travail très dur, de conditions de vie terribles, eh bien l'opium, ça a été pour eux, ça a marché très très fort, cette histoire.
On a cassé les prix, on a vraiment fait une politique de mafia, quoi.
Hein. Oui, tout à fait.
Rendre les gens dépendants pour s'assurer une balance commerciale, c'est ça, en fait.
Et en Angleterre, d'ailleurs, les gens, les Anglais n'étaient pas très preneurs, il y a beaucoup de gens qui critiquaient. D'ailleurs, il y a même une lettre, je crois, qui est arrivée à la reine Victoria, mais elle dit qu'elle ne l'a jamais reçue pour dénoncer cet état de fait.
C'était interdit en Angleterre, l'opium.
C'était interdit, ouais. Et puis pour dire, voilà, on ne doit pas traiter les Chinois de cette façon-là. Les Anglais préféraient ne rien voir. Et puis quand les Chinois, eux, à un moment, se sont dit stop, maintenant, il y a un dignitaire chinois qui a été jeté la cargaison d'opium dans la mer pour dire, maintenant, ça suffit. Ils se sont dit, casus belli, on attaque. Parce que
c'est la politique de la canonnière. On va avec des bateaux. Alors là, on voit le choc de la modernité, la Chine n'est pas au point militairement, simplement, et on va avec un gros bateau, des canons pointés sur Anport, on menace, on canonne.
Voilà, et là du coup les Chinois, surprise, ont découvert que l'industrialisation était en Europe et pas chez eux, et puis là ils ont dû se plier. Et ça a été ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, donc les deux guerres de l'opium, et ensuite la guerre des boxeurs, ils ont perdu toutes ces guerres les unes après les autres, en essayant, donc c'est Cixi l'impératrice qui essaye vainement de tenir le choc, mais ça a été très très dur, et je crois que pour les Chinois, c'est pas encore passé. Visiblement, ce siècle d'émulation.
On va en parler dans la deuxième partie. Ouais, il y a une vision du monde des Européens qu'on ne comprend pas non plus. Et on se demande pourquoi tout le monde nous déteste. On a peut-être une clé, grâce à vous, de se replonger dans cette histoire-là. C'est essentiel, comment on a traité les autres.
Il faut comprendre comment eux nous voient, je pense. Ouais.
On va se retrouver d'ici quelques instants pour la deuxième partie.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Hélène Jacobé, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission autour de ce personnage, donc Linayer, on l'a bien compris, vous nous l'avez expliqué, personnage historique, défilé de jeunes femmes devant l'impératrice à Pékin pendant cette révolte des boxers. Vous romancez son histoire avec une histoire de la pauvreté déjà. Quelqu'un qui vient d'un milieu très très modeste.
Oui, alors d'un milieu très modeste, donc c'est la fille d'un batelier. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu deux métiers, voire peut-être trois, qui permettent de faire les liens entre toutes les strates de la société. Parce que les artistes de cirque, évidemment, rencontrent plein de gens.
Les filles de batelière, elle va devenir artiste de cirque.
Donc elle va dans les. Elle connaît la culture, la musique, les danses, elle connaît sa culture. Et puis, prostituée. Évidemment, j'imagine qu'on rencontre pas mal de monde. Et puis, guérisseuse, tout le monde peut être amené, quand on souffre, à aller voir un guérisseur pour lui demander conseil. Et visible, je pense que c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai imaginé, comme quelqu'un qui, vient de la pauvreté, vient de l'humilité, mais qui est capable de passer toutes les portes et d'aller à la rencontre de tout le monde, en fait.
Ça lui permet, ce chemin-là que vous inventez, ou en tout cas que vous inventez à moitié, lui permet de connaître les pauvres, connaître les riches, parce que comme guérisseuse, elle va avoir affaire aux riches, ceux qui connaissent les trames de ce qui se passe, parce qu'on a décrit une opposition frontale entre la Chine et l'Occident. On peut aussi parler de ce qu'on appelle aujourd'hui des collabos, de ceux qui voulaient aller dans ce système-là, ceux qui ont retiré des richesses. Donc elle comprend, elle connaît tout ça. Et vous en faites quelqu'un de très réticent. Hein. Elle ne veut pas aller à la baston. Ben, c'est pas une passion. J'utilisais le mot passionnariat, c'est pas ça en fait.
Ben, moi je l'imagine comme ça parce que mais pendant toute l'écriture du roman, hein, je me suis dit, mais peut-être que c'est une mystificatrice cette femme. Parce que justement, comment si on est guérisseur, donc on a ce don, c'est pour faire le bien. Et évidemment que si on en fait quelque chose de pas bien, il est retiré. Enfin, c'est un peu ce qu'ils disent. Hein. Et du coup, pour moi, ça ne marchait pas. Et je me suis dit, mais alors comment, pourquoi est-ce qu'elle a réussi à en faire quelque chose de bien? Parce qu'elle a cette réputation quand même d'avoir fait du bien à beaucoup de gens. Donc si c'est une mystificatrice qui a juste été là, puis qui c'est, je sais pas, quelqu'un qui avait la haine contre les étrangers comme tous les autres, bon, c'est possible, mais je ne l'imagine pas comme ça. Moi, je l'imagine plutôt parce que en fait, il y a eu un avant et un après. Après Linéaire, les femmes sont sorties de chez elles. C'est quelque chose qu'elles ne faisaient pas avant. Mais après ces milices, il y a eu des femmes journalistes, il y a même une femme condamnée à mort pour outrage politique. Enfin, tout à coup, elles ont existé. Donc, elle a déverrouillé quelque chose.
Elle reste, on peut faire un parallèle foireux hein, avec Jeanne d'Arc, mais enfin, elle reste quelqu'un en Chine hein, aujourd'hui,
oui,
cette Linéaire.
Elle reste,
elle reste dans les mémoires, elle reste
statue,
une personne.
Oui. Oui, donc moi je l'ai imaginée comme ça, réticente, parce que je ne comprenais pas, parce que vraiment, voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était ce destin de guérisseuse, en fait. Voilà, comment, dans une période de guerre et de haine, garder finalement un cap. Et alors, j'ai imaginé une histoire comme ça, voilà, qui me paraissait plausible.
Le Lotus Jaune, hein, c'est le titre de votre roman, c'est aussi le nom de son école, son havre, hein, qu'elle crée justement pour recueillir des jeunes filles abandonnées. On n'a pas parlé de ça, mais il y a la fin.
Oui.
J'ai pas noté le passage, mais il y a un moment terrible où sur un paragraphe, vous décrivez la famine dans les campagnes, et vous terminez par, très sobrement, ils ont mangé de l'herbe.
Oui, hein, et ça c'est historique, ça voilà. Je l'ai pris dans les livres d'histoire, ils ont vraiment mangé de l'herbe, mangé des vers, parce qu'il y a eu plusieurs séries d'inondations où ben voilà, il y a eu, je crois, 3 ou 4 hivers où les paysans n'ont pas cultivé.
Donc, elle recueille ces femmes, elle les forme, elle leur donne un gîte, mais aussi une formation dans les métiers du cirque, d'ailleurs, qu'elle connaît bien. Certaines, elles veulent en faire des guérisseuses aussi, hein, si elles perçoivent le don. Et puis, ça va devenir une des milices de cette révolte des boxers, les Lanternes Rouges. Voilà. Ça aussi, c'est historique.
Ça, c'est historique. Alors, les Lanternes Rouges, c'était une des milices, d'ailleurs, justement, parce qu'il y avait les lanternes rouges, les lanternes bleues, les lanternes vertes, les lanternes noires. Et en fait, ces femmes étaient organisées par classe d'âge, ou alors les veuves, les mères. Et puis, les lanternes rouges, c'était les jeunes, les vierges, donc évidemment les plus jolies, qu'on mettait en rouge, donc bien visibles. Et donc, c'est ça que, je pense, l'histoire a retenu. Mais elles étaient organisées vraiment... elles étaient ensemble, en fait. Et ça, j'ai trouvé aussi très beau dans l'histoire de Linéaire, c'est qu'elle a mis ces gens ensemble. Et ça, c'est une tradition chinoise qui mérite, je crois, d'être connue. C'est justement ces sociétés d'entraide, et qui sont à l'origine hein, de ces boxeurs qui sont des congrégations de gens à la limite des mafiosos, hein, mais
voilà, nous on a dit boxeurs, c'est un peu vulgaire, hein, c'est un peu occidental. Eux, c'était la milice du poing et de l'harmonie, hein,
ouais, c'est
tout
ça.
Même autre chose.
Le poing de la justice et de l'harmonie, ouais. Oui, ouais, ouais, c'est bon. Alors, il y a plusieurs traductions qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors, on imagine ce poing levé. Ouais.
Avec cette idée d'harmonie toujours présente. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle connaît tous les milieux par son parcours, elle parle aussi avec tous les milieux. Et ça, c'est pour moi une grande réussite de votre livre, c'est que vous ne nous abrutissez pas d'abord de noms de famille compliqués pour nous, hein, parce que contre-intuitif, difficile.
C'est ça, ouais.
Vous donnez des surnoms à certains des personnages, et puis par son travail de guérisseuse, elle va parler à quelqu'un qui est très en cours, donc qui est un commerçant ou un intellectuel qui a une vision de ce qui se passe d'un point de vue politique, elle va aussi parler aux pauvres, et donc on a finalement une histoire globale de cette révolte des boxers dans tous les camps, grâce à elle et grâce à ses rencontres et à ses discussions un peu philosophiques souvent autour de ces événements.
Oui, alors tout à fait, donc ces personnages, j'avais besoin d'eux en fait, hein, pour expliquer l'histoire, parce que je vous dis, c'est l'histoire de Linéaire, ça fait partie de ce contexte à ce moment-là, dans ce pays-là, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, zut, j'ai perdu le fil. Vous me disiez par rapport au fait qu'elle
Oui, sinon, elle permet d'avoir une vision globale. Je ne pense pas qu'il y ait trop à rajouter là-dessus, grâce à ces rencontres, justement. Et je vous disais que c'était une réussite, que vous le faites de façon très harmonieuse. Hein. Ce sont des rencontres naturelles, des discussions naturelles qui nous permettent de comprendre le contexte historique. J'aimerais qu'on termine cette discussion avec justement comment l'Europe et comment votre livre nous crie. Et ça, je trouve très important ce qu'a été la colonisation. Hein, dans un cas précis, qui est celui de la Chine, il n'y a pas eu d'occupation territoriale, mais il y a eu des méthodes de voyous. On a parlé de la guerre de l'opium tout à l'heure. Il y a eu des conversions, on convertissait des gens, on leur donnait ensuite des avantages matériels, parce qu'on arrivait avec l'argent, les chrétiens du riz. Hein.
Ah, ça, je ne connaissais pas cette expression, mais oui, ça sonne...
Vous les trouvez chez vous, les chrétiens du riz.
C'est vrai ?
Oui.
Bon, non, alors... Ça sonne bien.
Ou je l'ai peut-être trouvé alors dans des recherches parallèles.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on redonnait du riz à des convertis, ce qui leur permettait d'échapper à la famine.
Oui, tout à fait. Et justement, ils n'ont pas été colonisés parce qu'ils ont pris le parti de payer jusqu'au dernier centime les énormes indemnités que leur réclamaient les 8 nations qui avaient gagné cette guerre. Et après, moi, je m'interroge parce qu'on regarde tout ça d'un air en se disant ah oui, vraiment, les Européens, quels voyous, et puis ces missionnaires, quelle horreur quand même de convertir. Mais en fait, alors, on en parlait tout à l'heure, on refait le passé, on refait le procès du passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Moi, je me demande, j'entends beaucoup de gens quand j'en parle de la Chine, disent qu'ils ont peur, ça fait peur, et puis quand même, la démocratie, la liberté individuelle, etc. Alors, moi, je suis un produit de la démocratie, de la liberté individuelle, donc bien sûr, je suis convaincue, mais comme les missionnaires étaient convaincus à l'époque. Et je me demande si de brandir toujours nos propres convictions, parce qu'on a vécu dedans, parce qu'on est issu de ça, et puis qu'on en trouve. Brandir ça en disant vous nous faites peur parce que vous n'êtes pas comme nous, je pense qu'il faudrait qu'on passe à autre chose quand même. Je sais pas qui a raison, qui a tort, mais je pense que la démarche n'est pas...
On est peut-être dans une position inférieure aujourd'hui qui dit que bon, passons à autre chose, hein, mais la plaie, la blessure, elle demeure. Il y a eu une humiliation terrible d'une civilisation, encore une fois millénaire, en Chine, et qui explique comment le monde, on appelle ça le sud global aujourd'hui, nous voit. Hein.
Ben,
que ce
comme
soit
des gens,
en Afrique, que ce soit en Asie,
comme des gens pas très crédibles,
du Sud,
pas très crédibles et pas très sympas, oui, et commercialement très agressifs, et on est étonné, hein, beaucoup d'entreprises souffrent de la concurrence chinoise en Suisse et en Europe, on est étonné, mais je pense que moi je ne suis pas si étonnée que ça, après avoir fait les recherches que j'ai fait pour ce roman, je pense que c'est oui, ce serait pas mal qu'on s'intéresse un peu à essayer de se comprendre avant d'essayer de se transformer.
Moi j'ai eu grâce à votre livre une confirmation de ce que j'avais entendu dans des conférences de géopolitologues qui disaient mais il faut bien comprendre que dans chaque cerveau chinois il y a encore l'humiliation des guerres de l'opium, l'humiliation du siècle de l'humiliation.
Parce que je crois que c'est comme ça que s'appelle le chapitre d'histoire à l'école. Hein.
Ouais.
Le siècle de, comme nous on a, je sais pas, la première guerre mondiale, ils ont le siècle de l'humiliation. Ouais. Donc forcément, c'est l'image qu'on a n'est pas idéale. Alors l'image qu'ils ont en Europe, apparemment, il y a de moins en moins de gens qui prennent des cours de mandarin, les instituts Confucius ferment, donc. J'ai l'impression que finalement par rapport à il y a 30 ans où on s'intéressait, on regardait ces films et tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter, c'est dommage, parce que c'est une belle culture et puis je pense qu'on a quand même beaucoup en commun. Et justement moi pour écrire ce roman, je suis partie plutôt que de me dire oh là là la Chine c'est compliqué, tous ces noms bizarres et tous ces lieux et toute cette histoire que je connais pas, mais j'ai essayé de partir de ce qu'on avait, de ce qu'on a en commun en fait. Et je pense qu'on voilà, on est des êtres humains avec ils aiment le cirque moi aussi, enfin il y a plein de trucs,
j'aime la cuisine.
Voilà, je pense qu'il faut partir du simple, en fait.
Moi, j'ai trouvé très fascinant de voir la différence de civilisation entre une civilisation vraiment basée sur l'objectif. Hein, il faut réussir l'objectif. C'est la civilisation européenne qui a eu son triomphe grâce à ça. Et une civilisation chinoise, à cette époque-là, aujourd'hui, elle a compris comment marchait le monde, mais à cette époque-là, basée plutôt sur l'harmonie. Alors, c'était pas joyeux. Hein, il y avait des pauvres très pauvres. C'était,
et puis, ils étaient pas mal impérialistes, hein, le Tibet, tout ça. Enfin, c'était
mais dans des frontières proches, quoi. Hein
ben, je crois qu'ils étaient c'était pas mal impérialiste. Par contre, ce qu'ils avaient pas vu venir, c'était vraiment l'industrialisation. Mmh. Et ça a fait des ravages aussi en Europe. D'ailleurs, la plupart des colons qui sont partis justement conquérir le monde, c'est ceux qui trouvaient pas leur place en Europe, parce que les vieilles familles qui ont été poussées.
Il y a un moment très intéressant. Où vous dites, il y a une description de l'intellectuel qui dit, ceux qui viennent chez nous, c'est les frustrés.
C'est les frustrés, les aventuriers qui veulent, c'est l'ambition en fait. Et ça, je pense que c'est très humain en fait. Cette ambition, on veut être riche. Et d'ailleurs, les Chinois, eux, l'assumaient complètement dans leur programme politique. Les 10 dernières années, ils voulaient être riches. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus l'usine du monde, pour s'enrichir, pour sortir de cette misère. Et je pense que c'est important quand même de. Oui, parce que tant qu'il y aura de la misère, il y aura des trucs bizarres qui vont se passer. Mais que ce serait bien que tout le monde en sorte.
Bon, votre livre, Hélène Jacobet, nous permet de mieux comprendre le monde, mais surtout de suivre la vie, les aventures, parfois palpitantes, parfois calmes, parfois sereines et calmes, de cette jeune femme, Lynn Ayer, donc personnage historique qui devient une figure de cette révolte des boxeurs. Merci.
Merci à vous.
Voilà, un livre paru aux éditions Héloïse d'Ormesson et Favre. Voilà, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Radio Chablais, programme de nuit.
La Minute Hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, un lundi au soleil, un soleil chablaisien, un 22 avril. C'était un lundi au soleil, un soleil chablaisien, un 22 avril. Vivement l'été.
La Minute Hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Ici à la boutique Anaïs à Aigle, je me suis posé la question, si je veux acheter des sous-vêtements pour ma chérie, comment je fais? Alison, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a déjà une histoire de taille, forcément, mais moi, je veux faire la surprise, il faut que je regarde discrètement, mais vous allez pouvoir me conseiller si je vous dis, ma chérie, elle est à peu près comme ça, elle est un peu ça et tout, comment on fait?
Alors, on a plusieurs options, la plus facile, c'est de, je dirais, d'aller chercher...
Discrètement la taille, quoi, de voler un sous-vêtement une fois et d'essayer de s'en souvenir avec ma mémoire de mec moyen.
Voilà, ou alors de faire une petite photo de l'étiquette...
Ça, c'est bien ça.
Voilà, avec la taille, et puis de revenir vers moi en me présentant la photo pour le haut et la photo pour un bas. Comme ça, ça nous aiguille déjà un petit peu dans la taille que madame prend. Puis après, ça va être au niveau des choix des couleurs, des modèles. Et puis après, c'est clair que quand c'est un cadeau, on a des fois une chance sur deux que ça passe, mais après, de toute façon, on échange, on fait les retours, il n'y a pas de souci.
Maintenant, des couleurs qui inspirent, hein. Quand je vois tous les modèles ici, forcément, j'ai les yeux qui brillent, mais comment on va pouvoir bien choisir? On se dit, c'est le choix personnel qu'on a peut-être envie de voir sur la personne, mais il y a aussi peut-être la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, enfin, comment on choisit idéalement pour essayer de se faire plaisir personnel, mais plaisir partagé?
Alors, c'est vrai que d'abord, on va être attiré par une couleur. Souvent, par une forme, par un modèle. Mais le meilleur des choix, c'est après d'essayer. Parce qu'on va voir des fois un soutien-gorge sur cintre magnifique. Puis tout d'un coup, porté, on va se rendre compte que c'est pas forcément la forme, la coupe qui nous met le plus en valeur et qui flatte le mieux. Alors après, on va trouver ensemble la bonne taille, la bonne forme. Et c'est beaucoup d'essayage pour arriver à la sélection finale.
Alors justement, est-ce que la meilleure chose, c'est pas de venir en couple? Si on est en couple, Ça peut être rigolo, une séance d'essayage à deux.
Oui, alors c'est vrai que des fois, j'ai des personnes qui viennent en couple. Ça, madame essaye, monsieur valide, donne son petit avis. Mais après, au final, le choix final revient souvent à madame, car c'est elle qui le porte. Hein. Donc, elle doit quand même se sentir bien dedans. Mais on peut venir à deux, en effet, ça peut être un bon moment aussi.
Puis alors, bien sûr, si on est célibataire, on se fait énormément plaisir. On vient ici, je dis pas le garçon, hein, parce que moi, je me vois pas porter certaines choses que vous avez. Mais, mais par contre, une dame, ben, vous allez aussi pouvoir peut-être l'orienter, la conseiller. Peut-être aussi, c'est un moyen de se redonner confiance, non, de porter des jolis sous-vêtements. Parce qu'au final, c'est que pour soi.
Ah oui, alors c'est clair que quand on va se regarder dans le miroir avec une belle parure, quelque chose qui nous met en valeur, ben, on va tout de suite se sentir très belle et un grand sourire, et puis ça fait du bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui ?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le MAG, c'est ta région par ta radio du lundi au vendredi après le journal de 17h. Et le lundi, on fait des étirements et des génuflexions parce que c'est sport et c'est avec toi Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc.
Et on commence par the événement sportif du week-end, la patrouille des glaciers.
Exactement, et à la PDG, vous le savez Loïc, il y a les élites qui finissent devant, comme les vainqueurs féminines Caroline Ulrich et Thibaut de Seine de la Tour de Paix et les Uns. Mais un peu derrière, il y a aussi de belles histoires qui s'écrivent. Laurent Perruchot de Massonger l'a remporté deux fois cette mythique course. C'était sur le grand parcours entre Zermatt et Verbier en 1992 et 1994. Il a couru hier sa 10e et dernière PDG, non sans émotion, puisqu'il était accompagné de ses deux filles, Jade et Léa. Interview juste après la course.
Ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose parce que je pensais plus la refaire. La dernière fois, j'avais fait en 2010, j'avais dit que c'était bon. Et puis là, pour faire avec mes filles, ben voilà, c'était parce qu'ils ont beaucoup entendu parler de la patrouille des glaciers, mais elles étaient en compagnie. Et puis maintenant, ben voilà, je voulais leur montrer le passage. Et puis pour moi, c'est clair que c'est la boucle est bouclée. Je voulais la faire une fois, la finir avec elles. Et puis maintenant, elles se débrouilleront toutes seules sans moi.
Vous en avez pensé quoi, vous deux?
En tout cas, trop eu du plaisir. C'est vrai qu'on a toujours voulu aller sur le parcours, voir ce que papa avait fait. On a commencé déjà de faire la petite, mais on voulait toujours faire ensemble. Donc on est vraiment contents et ça s'est vraiment super bien passé. Donc non, c'est chouette, une belle expérience.
Oui, c'est un super beau défi. On a pu s'entraîner toute la saison, c'est top. On avait juste peur que on puisse pas partir et finalement la saison s'est tout bien terminée. Cerise sur le gâteau.
Cerise sur le gâteau, alors dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales. Laurent Perruchot, vous avez connu les meilleures conditions, on imagine, lors de votre victoire, on le rappelle, 92-94. Aujourd'hui, c'était quand même compliqué.
On nous prédisait vraiment très froid et tout, et je pense franchement, c'était des conditions idéales pour nous. On a même eu du soleil sur Rosa Blanche. Les marches super bien préparées, j'aurais un peu souci, j'ai dit avec toute la neige qui est tombée, mais c'était top. Et franchement, on a passé vraiment une belle édition. J'ai eu vu pire que ça il y a des fois que là. Alors bon, c'est clair, c'est sur le petit parcours, c'est peut-être différent que sur le grand. Mais non, de bonnes conditions. Bravo à l'organisation et bravo là, vive la patrouille des glaciers.
Vous avez abordé tout à l'heure le côté transmission à vos filles. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles aient retenu aujourd'hui?
Oui, moi c'était surtout la solidarité. C'est vrai qu'on est trois, une patrouille comme ça, j'ai toujours aimé grâce à ça, c'est de s'entraider. Ça sert à rien de partir devant, comme j'ai dit aux filles. S'il y a une qui est un peu plus, qui est pas bien à un moment, on doit rester avec, on doit s'occuper d'elle, on lui porte les skis, on fait. Moi c'est ça que je veux leur transmettre, la vraie chose pour le sport, c'est vraiment partager, passer des bons moments ensemble, et puis c'est pas individuel, c'est une patrouille, et puis c'est ça qui est beau.
Qu'est-ce que ça représentait pour vous, Laurent, la patrouille des glaciers, quand on vous dit juste ça?
Moi, c'est un rêve. C'est clair que quand tu l'as gagné, c'était toujours... les gens, ils te disent toujours encore 30 ans après, pourtant, ils parlent toujours de ça, et ça fait plaisir. Alors là, j'ai eu du plaisir après à préparer avec les filles, mais c'est vrai que la patrouille des glaciers, c'est magnifique, quoi. C'est une sacrée organisation. Hein.
Oui, est-ce que ça vous a donné le virus? On espère revenir dans 2 ans.
On verra. En tout cas, c'est motivant. En tout cas, j'ai vraiment adoré, pourquoi pas. Ouais, franchement, ça vaut le détour.
Et pour la petite histoire, les Perruches, c'était le nom de leur équipe, ont rallié Verbier depuis Arouella en 7h35 et 59 secondes.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Direction les patinoires à présent, c'est encore de saison, on en profite, n'est-ce pas Thierry Nicolet? Même si pour cette personnalité sportive de la région, la fin de saison rime avec sa retraite également.
Exactement, l'américano-suisse Christophe Braun a décidé de tourner l'une des pages les plus importantes de sa vie, celle du hockey. Après avoir griffé la glace en tant que joueur, puis transmis sa passion en tant qu'entraîneur, le Villardoux de bientôt 50 ans a décidé de tirer la prise après 4 décennies dans le milieu. Jusqu'à ce printemps, il coachait le HC Montéchablais en deuxième ligue. Il revient sur cette décision.
À 50 ans, on a quand même un peu moins d'énergie. Je l'ai quand même constaté tout au fil de la saison. Et puis, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir fermer son livre qui a été ouvert, effectivement, il y a plus de 40 ans. Donc, on va dire 4 décennies où tous mes week-ends du mois d'août au mois de mars, avril étaient rythmés par le hockey sur glace. Et puis, à un moment donné... Faut dire stop, puis c'est le cas aujourd'hui.
Ouais, vous avez dit 4 décennies, ça fait 80% de votre vie, hein, si on arrondit un petit peu. Ça fait un peu peur quand même.
Ouais, non, peur pas. Après, c'est clair que j'aurai un peu plus de temps pour moi, peut-être faire un petit peu de sport aussi à moi, parce que j'ai mis ça un petit peu de côté. D'ailleurs, c'est certainement la raison de mes quelques kilos qui débordent à gauche, à droite. Mais non, en tout cas, maintenant, ça me fait pas peur. De toute façon, c'est l'intersaison, donc on peut pas vraiment y penser. Certainement qu'au mois d'août, mois de septembre, ça me titille un tout petit peu. Et puis ben, pour l'instant, ben, je l'ai fermé, je compte l'avoir fermé pour de vrai ce bouquin. Mais sait-on jamais, peut-être que d'ici une année ou deux ou trois, ou quelque chose comme ça, ce qui adviendra de l'avenir.
Le coaching, ben, ça fait quand même 10 ans maintenant. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'être humain?
Beaucoup. Vraiment énormément. Je dirais la première chose, c'est que j'ai toujours pu côtoyer des jeunes, voire des très jeunes. Donc ça m'a gardé aussi avec un esprit encore plus jeune toutes ces années durant. Et puis je pense que ça m'a aussi aidé dans mon travail. Hein. Je veux dire, mon travail, je suis employé de banque, je reçois de la clientèle. Et puis ben, il faut aussi être... bien écouter, savoir écouter, analyser les besoins de chacun, autant dans ma profession qu'au niveau du hockey. Donc ça m'a permis en fait de trouver un bon mélange et beaucoup de choses que je reprends de la banque pour le hockey, puis d'autres choses que je prends du hockey pour amener dans mes entretiens banque. Donc pour moi ça faisait un bon lien et régulièrement j'y pensais.
Bon, vous étiez joueur, vous avez joué à Fribourg, à Zoug, à Lausanne, à Sierre aussi, à Villars. Cette décision de devenir coach, comment elle s'était faite?
Alors, c'était pas vraiment une décision, c'est venu un petit peu comme ça par hasard. En finalité, je donnais un coup de main aux jeunes ici à Montaigne. Après, ils cherchaient quelqu'un pour reprendre éventuellement la première équipe. Dans un premier temps, ça devait être un autre coach qui devait venir et moi, je devais simplement l'assister pour lui donner un coup de main. Puis en finalité, en dernier recours, le coach principal a décidé autrement pour sa carrière de coach. Et puis dans la foulée, le président il m'a demandé de reprendre l'équipe à mon compte. Et puis j'ai dit OK et puis c'est parti de là.
C'était une manière pour vous à ce moment-là de ne pas forcément couper le cordon avec la glace?
Oui, certainement. Puis je pense que j'avais des choses à apporter. J'étais quand même conscient que, ouais, que le hockey m'avait beaucoup donné, ça c'est sûr. Et puis que je pouvais, d'une manière ou d'une autre, peut-être rendre un tout petit peu à César ce qu'il m'avait donné. Et puis donner quelques conseils, autant au niveau hockeyistique qu'au niveau peut-être personnel, avec mon vécu, mon expérience de vie en tant qu'homme simple et puis en tant qu'hockeyeur.
Vous avez pu observer en tant que joueur, en tant que coach, une certaine évolution, j'imagine, dans ce monde du hockey. Bah, par rapport à vos débuts, peut-être parler du niveau de jeu, par exemple. Quelle évolution vous avez pu remarquer? Est-ce que le hockey a évolué déjà vers le bien, vers le moins bien?
Ah non, ça a évolué vraiment de façon drastique, je dirais. C'est un peu comme la société. Hein. Ça va trop vite pour la musique, parfois. Et c'est vrai, quand on voit un match de Liga aujourd'hui, de play-off notamment, ben on voit que le niveau il est exceptionnel, avec une vitesse de jeu, vitesse de patinage, une intensité de tous les instants. Et je pense que ça a évolué vraiment positivement parce que c'est vraiment, vraiment chouette. Il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours quelque chose à regarder. Donc vraiment, je pense qu'il y a plein d'aspects qui ont changé. Ben, le fait qu'il y ait 6 étrangers maintenant qui peuvent évoluer en Liga, le fait que les joueurs soient encore mieux préparés physiquement, le matériel aussi fait beaucoup. Et c'est vrai que ça fait vraiment des sacrés spectacles.
Vous avez connu le monde professionnel, vous avez coaché au niveau amateur, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Bah même en deuxième ligue, je pense que le niveau a aussi augmenté, hein, ça c'est clair. Hein, il y a des très bons joueurs qui évoluent à ce niveau-là, certains joueurs qui veulent garder encore un petit pied comme joueur, qui viennent évoluer à ce niveau-là. Moins de contraintes qu'en première ligue ou en Maiocchi League, ça c'est sûr, mais avec un niveau de jeu qui est quand même totalement cohérent. Après, ben, ça reste vraiment de l'amateurisme, parce que ben, les joueurs ne sont pas du tout payés hein, pour faire ce qu'ils font là pour leurs équipes respectives. C'est vrai qu'à un moment donné, ben, ce qui manque peut-être, c'est un petit peu d'assiduité des joueurs, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie actuelle que même les joueurs de deuxième ligue, pas tous, bien évidemment pas tous, ont une tendance de vouloir faire peut-être trop de choses. Et c'est peut-être ça qui a un petit peu évolué, peut-être pas dans le bon sens en deuxième ligue.
C'est la suite de votre vie pour vous, Christophe Brown. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Puis qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Bah là, je vais me concentrer sur mon nouveau travail. Hein. J'ai démarré un nouveau travail dans une nouvelle banque depuis novembre passé. Donc, ça fait même pas 6 mois que j'y suis. Donc, maintenant, je vais me concentrer là-dessus, me concentrer aussi pour un petit peu plus de temps pour ma famille et puis sur moi-même pour, on va dire, éliminer ces quelques kilos en trop.
Radio Chablais, programme de nuit.
On va terminer ce mag au spécial sport du lundi en faisant la place belle à la bicyclette avec le Tour de Romandie qui débutera demain à Payerne sur les chapeaux de roue avec un contre-la-montre. Thierry Nicolet, ton invité de ce soir n'est autre que le dernier vainqueur suisse de l'épreuve.
Exactement, c'était en 1998 et c'était le résident d'Olon, Laurent Dufaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, pour vous, ce sont 10 départs sur la boucle romande, le premier en 1991, le dernier en 2003, pour 40 étapes en tout, dont 5 victoires. Bon, le Tour de Romandie, c'est quelque chose pour vous, ça représente quelque chose d'important dans votre carrière?
Ça a toujours représenté quelque chose d'énorme, parce que déjà en tant que j'étais jeune, gamin, comme beaucoup, ben, on allait voir les champions, on allait se faire plaisir. Et puis après, ben, quand on a la chance de devenir coureur cycliste et qu'on passe professionnel, ben, le rêve, c'est d'être au départ de ce Tour de Romandie. C'était mon cas à l'occasion de ma première année, où en plus je me suis révélé, j'étais le meilleur Suisse en terminant 5e au classement général. Et c'est vrai que la course, elle a toujours eu une place particulière dans mon calendrier, avec beaucoup d'attention pour bien me préparer, pour essayer d'évoluer au meilleur niveau, devant mon public aussi, et sur des routes qu'on connaît. Donc c'est clair que ça a toujours été quelque chose d'important pour moi.
Ce public, ces routes, quand on est coureur, ça représente un avantage quand même de courir à domicile?
Toujours, ça représente un avantage, parce que déjà on a beaucoup plus de motivation. Le fait déjà de courir sur des routes qu'on connaît, donc on sait où un petit peu on va mettre les pieds, si je peux me permettre l'expression. Ça nous donne la possibilité d'aller aussi en repérage, un petit peu en amont de la course, d'aller reconnaître les étapes, reconnaître un petit peu les endroits piégeux. Donc il y a quand même un avantage sur l'adversaire. Et puis de courir devant son public, devant ses supporters, ben ça bonifie, ça donne des ailes des fois. Et puis c'est toujours un plaisir. Surtout si on peut évoluer au premier plan, quoi, ça c'est clair.
Ouais, puis on a tous des souvenirs du Tour de Romandie qui passe devant chez nous. Il y a toujours beaucoup de monde hein, sur ces courses, sur cette course-là. Bon, vous, si on devait sortir un ou deux souvenirs de ces 10 participations, qu'est-ce que vous retireriez?
Moi, il y avait déjà, comme je l'ai dit, la première année, ma première participation. Ben voilà, moi, j'étais donc au sein de l'équipe Helvetia, entouré de jolis noms, ben, notamment Pascal Richard, hein, qui est le parrain de cette édition 2024, pour qui fête aussi son 30e anniversaire, qui avait gagné donc le prologue à Chiasso. Et puis, par la suite, on gagne le lendemain avec Jean-Claude Leclerc, qui prend le maillot, et moi, j'étais le petit Suisse, le petit jeune, le néo-pro, qui est venu un petit peu voler la vedette au leader de l'équipe en terminant 4e sur les hauteurs de la Folie. Et puis j'ai terminé donc cinquième à l'occasion de ce premier tour de Romandie. Puis c'est vrai, bah, tout de suite, on voit un petit peu l'émulsion que ça provoquait avec bien sûr les médias, le public. Et puis après, c'est clair, ben, il y a eu 98 où là, je me suis vraiment révélé au grand public. Là, j'ai abordé la course motivé avec une grosse équipe. 3 victoires d'étape, le classement général. 2000, une victoire d'étape à la Chaux-de-Fonds également. Une troisième place au classement général. Et puis, j'ai quand même terminé pas loin de la gagne en 2003. Je remporte également une étape avec la prise du maillot de leader sur Alloëche-les-Bains. Et puis, je termine deuxième au contre-la-montre à Lausanne avec une jolie deuxième place sur le classement général. Donc celle-ci, il aurait fallu presque la gagner pour quasiment finaliser la carrière, vu que j'ai terminé en 2004.
Ouais, bah ça en fait des souvenirs en tout cas, Laurent Dufaux. On va parler du parcours de cette année, de l'édition 2024 de ce Tour de Romandie. Bon, on l'a dit, ça commencera demain à Payerne avec un prologue. Il y aura plusieurs étapes, notamment l'étape Rennes dans la région, ce sera samedi, l'étape entre Saillon et Lézin. Le parcours 2024, si vous deviez nous le décrire un petit peu, Laurent Dufaux, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
Comme un peu toujours, je crois que le Tour de Romandie, c'est un parcours très complet, très exigeant. Généralement, c'est pas n'importe qui le gagne. C'est souvent soit quelqu'un qui se révèle, mais c'est souvent un grand champion qui est là, qui a déjà des caractéristiques au niveau de l'effort individuel, donc doit être fort au niveau contre la montre et surtout très bon dans la montagne. Demain, il y a un parcours très court du côté de Payerne, très technique. Donc de toute façon, tous les leaders devront aborder cette course très concentrés pour essayer de perdre un minimum de temps. On a une première étape du côté de Fribourg, plutôt réservée aux routiers sprinters. Je vois un groupe de 8 ans de coureurs plus ou moins qui devrait se présenter. Ensuite, on a le premier grand rendez-vous du côté de Salon-les-Marécottes, jeudi, avec une première explication. Donc ça sera une montée sèche. Donc c'est là qu'on va peut-être déjà voir une première hiérarchie se faire au niveau du classement général. Bien sûr, toujours le rendez-vous important, le contre-la-montre du côté d'Oron cette année. Il y a un contre-la-montre d'environ 15 km, mais quand même assez exigeant. Et puis là, comme vous l'avez dit, la grosse étape de montagne, plus de 3400 mètres dénivelé, qui va partir de Saillon pour rejoindre les hauteurs de Lézin, avec la montée d'Ovrenat de son côté le plus dur, la montée des Champs et des Giettes, un enchaînement de difficultés qui risque de faire mal dans la partie finale. On est à moins de 50 km, une petite passage du côté de en dessus de chez moi à Antagne pour ensuite la montée finale. Donc voilà, je crois un Tour de Romandie complet. Et je pense qu'il va permettre en tout cas une belle explication entre les hommes forts. On se réjouit de voir du beau spectacle cette semaine.
Ouais, une sacrée étape samedi, vous l'avez dit, des sacrées étapes tous les jours, hein, jusqu'à dimanche, jusque dans le canton de Genève. Bon, on va parler un peu des chances suisses avec vous, Laurent Dufaux. On le disait en introduction, vous êtes le dernier vainqueur helvétique. Ça fait quand même 26 ans. Est-ce qu'on est content que ce record perdure, de rester tout en haut, ou on a quand même envie de se voir quelqu'un se remplacer après toutes ces années?
À chaque année, c'est un petit peu les mêmes discussions. C'est le dernier Suisse, c'est Laurent Dufaux qui l'a remporté. Et on essaie toujours de trouver qui c'est qui pourrait me succéder. Moi, j'aimerais vraiment qu'un Suisse y arrive. Finalement, on a énormément de très très bons coureurs ces dernières années. On a une nouvelle génération de coureurs suisses, plutôt des coureurs qui ont peut-être des caractéristiques plus pour des courses d'un jour, comme Stéphane Bisseger, Marc Hirschi, que ça soit même Moreau Schmidt. On avait malheureusement celui qui avait démontré avoir des prédispositions pour pouvoir essayer de remporter un Tour de Romandie. C'était malheureusement Gino Meder qui est décédé l'année dernière au Tour de Suisse, qui avait terminé deuxième il y a 2 ans. Et maintenant, il faut voir, il y a le jeune Jan Christen, hein, qui est la nouvelle pépite du cyclisme suisse, qui avait remporté le Tour du Pays de Vaud il n'y a pas si longtemps que ça, qui vient de remporter une étape autour des Abruzzes, qui sera présent avec la grosse équipe UAE, hein, avec le vainqueur sortant Adam Yates. Ça, c'est un coureur qui a des prédispositions pour le classement général. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi un jeune roman, Yanis Voisard, qui a énormément progressé, qui est un coureur que je connais bien. Je l'ai côtoyé quand il était dans une équipe où j'étais directeur sportif, l'équipe Across. Et il vient de terminer 4e autour des Abruzzes. Je l'ai eu encore dernièrement au téléphone et il est très très motivé. C'est un coureur qui a, pour moi, des caractéristiques en tout cas de bien figurer. Maintenant, il faudra peut-être encore laisser à ces coureurs le temps de prendre un peu de la maturité. Mais en tout cas, on a une jeune génération qui arrive les dents longues et puis qui n'ont pas trop de complexes finalement.
Ouais, vous m'avez parlé de Yanis Voisard, c'était 18e place l'année passée. Ils seront 15 Suisses, hein, sur ce Tour de Romandie. Mais
on l'a dit, ils n'arrivent pas encore forcément à jouer tout devant. Ces Suisses, qu'est-ce qui manque? C'est au niveau de la formation? Est-ce qu'on a, c'est un problème cyclique? Est-ce qu'il y a des années où on a forcément des jeunes qui peuvent courir ces courses à étapes tout devant? Et puis il y a des creux, est-ce qu'on est un peu dans un creux ou est-ce qu'on se situe là?
Moi, je ne pense pas qu'on est dans un creux. Je crois que le cyclisme suisse se porte très très bien. Comme je l'ai dit, on a une jeune génération qui est arrivée il y a quelques années où on a marqué quand même les esprits sur des courses World Tour, mais plutôt des courses d'un jour. Si on prend un Marc Hirschi qui avait terminé, qui a gagné la Flèche Wallonne, qui a gagné des étapes au Tour de France sur des courses d'un jour, un Mauro Schmidt qui a été souvent aussi aux avant-postes dans des courses très très importantes, à Stéphane Bisseger. On a plutôt des caractéristiques de coureurs efficace sur des courses d'un jour, un petit peu moins sur des courses par étapes. Après, il ne faut pas oublier que le Tour de Romandie est devenu depuis quelques années une course World Tour. Il y a les meilleures formations du monde, beaucoup de rouleaux compresseurs, comme on peut les appeler. Et des fois, les Suisses qui appartiennent à ces formations ont des fois un rôle d'équipier, ne peuvent pas forcément défendre ses propres chances parce qu'ils doivent faire le travail par rapport à la hiérarchie, par rapport à la stratégie qui est mise en place. Donc, je pense qu'on a maintenant la chance d'avoir une nouvelle équipe suisse depuis deux ans avec l'équipe Tudor, qui fait un excellent travail, qui est une équipe de formation. C'est une équipe qui est en train de se construire gentiment, qui va gentiment arriver au niveau World Tour. Et on voit cette année qu'ils sont déjà très très compétitifs et ils vont certainement enrôler des jeunes Suisses pour gentiment progresser. Et, je l'espère en tout cas, qu'ils vont jouer les premiers rôles sur des courses par étapes.
Ouais, cette équipe Tudor avec le Martin Jurin, Sébastien Reichenbach, on a le leader, on a dit le Jurassien Yannis Voisard, encore Alberto Dainese, l'Italien pour les sprints. Vous avez parlé du tableau, vous l'avez abordé, du plateau pardon, des coureurs, vous l'avez abordé avec Adam Yates, le vainqueur sortant de cette équipe UAE. Bah, y a des beaux noms quand même cette année. Alors on n'a pas les plus grands noms, ceux qui sont tout en haut, à qui on pourrait penser, Vingegaard, Pogacar, Roglic. Mais on a les frères Yates, on a Julien Alaphilippe, on a Alexander Vlasov, on a Carlos Rodriguez, Egan Bernal. Ce plateau, vous en pensez quoi cette année?
Je crois qu'il y a un plateau qui est excellent, avec des belles surprises dernière minute, dans la venue de Julien Alaphilippe. Je crois que c'est un coureur qui a du panache, c'est un ancien champion du monde, c'est un coureur qui est en train de préparer le Tour d'Italie, donc je pense que c'est un coureur qui peut amener un certain spectacle, et puis qui amène aussi une valeur ajoutée pour les organisateurs et pour la course. Je pense que c'était une très bonne chose. Il y a aussi Carlos Rodriguez, très en vue sur le dernier Tour de France, du côté de l'équipe Ineos. Donc je crois qu'on a le vainqueur sortant, Adam Yates, qui est au sein d'une formation impressionnante, avec Juan Ayuso qui vient de gagner le Tour du Pays Basque, avec Magdulli, avec Sivakov, Jan Christen, le jeune Suisse. Donc une équipe, je pense qu'on a 3-4 équipes qui vont sortir du lot, l'équipe Bora également, avec Alexandre Vlasov, toujours très présent sur la boucle romande, avec Yann Hinley, ancien vainqueur du Tour d'Italie, la Groupama FDJ, qu'il faut pas oublier, avec David Gaudu et Lenny Martinez, un petit peu la nouvelle pépite du cyclisme français, qui viennent de remporter à eux deux dernièrement des courses du côté du Jura. Donc je crois on a une belle participation. Il va y avoir, à mon avis, un bon suspense. Et puis il y a toujours une révélation, donc je crois qu'on va encore en avoir cette année.
Ouais, en tout cas on le souhaite. Merci beaucoup Laurent Dufaux. Je rappelle, vous êtes le dernier vainqueur suisse du Tour de Romandie, c'était en 1998. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite tout de bon, une belle soirée.
Merci à vous.
Et une bonne soirée aussi à tout le monde. Merci beaucoup.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Vade rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Quand on m'a proposé de faire une interview là-dessus, quand on m'a proposé le sujet, j'ai tout de suite dit oui. Et je me suis tout de suite imaginé des enfants en bas âge, en mode survivaliste, en train de faire des vœux et construire des tipis. Je sais pas si c'est ça exactement dont on va parler aujourd'hui. Peut-être que mon imagination va trop loin. La crèche en forêt, c'est quoi? C'est la question qui nous concerne. Et pour ça, j'accueille Sylvie Rossier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Charles Mutzenberg. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous appartenez à la crèche Les Baroudeurs du Caillou à Saint-Trifon, vous êtes assistant socio-éducatif. Ok, la crèche en forêt, s'il vous plaît, c'est quoi?
Alors, la crèche en forêt, c'est comme une crèche normale. Simplement, on est à l'extérieur, dans la nature, dans la forêt. Et nous, on a de la chance de pouvoir bénéficier d'une forêt qui est privée, qui procure un lieu sécure pour les enfants.
Est-ce que vous avez une autre définition que celle-là, monsieur Jean-Charles Mutzenberg?
Non, je crois que Sylvie a bien décrit la situation. Moi, je dis toujours que c'est comme si on était au parc toute la journée.
Oula, ça c'est fun ça. C'est vrai en fait, effectivement, parce que déjà, souvent quand on va à la crèche, ben déjà il y a plein de jeux. Alors moi j'étais à la crèche il y a très longtemps, hein. Mais y a toujours plein de jeux, probablement des jeux qu'on n'a pas forcément à la maison. Moi je me rappelle que c'était un moment cool d'aller à la crèche. Là, c'est le même principe, mais en plus de ça, avec les bâtons en plus.
Alors oui, avec tout ce que la nature nous procure. Des bâtons, de la boue, des cailloux, des feuilles mortes. Voilà, on vit vraiment au rythme des saisons aussi. Bah, comme aujourd'hui, il faisait un peu plus frais. Alors on a remis les habits d'hiver et puis on a fait du feu pour se tenir un petit peu au chaud.
Donc on fait du feu avec les enfants. Donc j'étais pas si loin avec le mode Bear Grylls là. On fait du feu pour les enfants quand il fait froid.
Sur contrôle, sur accompagnement, bien sûr, hein, parce que c'est assez dangereux. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est que toute la préparation se fasse avec eux. On coupe du bois avec des haches. Alors, sur accompagnement aussi, toujours, hein. Ils ont plutôt c'est eux qui ramassent le bois après. Des fois, c'est moi qui utilise la hache, mais c'est eux qui ramassent le bois pour mettre après dans le feu. Puis après, une fois que c'est allumé, ben, il y a toute la partie sécurité. Donc, ça fait juste à 50 cm. Ils peuvent juste profiter de la chaleur, quoi.
C'est ça, on a un feu sécurisé, comme on doit toujours faire, peu importe quand on fait des feux en forêt. Il faut toujours bien les sécuriser.
Exactement.
Est-ce que ça, c'est par exemple quelque chose que vous enseignez justement aux enfants?
Alors, ils savent qu'ils doivent justement pas aller parce que c'est dangereux, qu'ils peuvent aller s'asseoir près du feu avec un adulte, qu'ils peuvent pas aller tout seuls. On les laisse jamais seuls quand on fait le feu. Et ils savent que le soir, on doit éteindre avant de partir. Pour pas laisser un feu sans être éteint avant de partir de la forêt.
Donc, en fait, on va faire une éducation, ou une instruction plutôt, parce que finalement, l'éducation, c'est le job des parents. Ça, on le rappellera jamais assez, hein. Mais finalement,